paysage. Un que vous connaissez par cœur, que vous délimitez dans votre mémoire par un cadre bien précis. Un peu comme une photographie, figurez-vous, sa profondeur, ses perspectives, ses couleurs. Et puis ses parfums aussi, ses sonorités, peut-être même quelque chose qui relève du toucher. Tout ce qu'il charrie dans votre imaginaire, les souvenirs, les personnes qui l'arpentent ou qui l'ont arpenté. La façon dont il a évolué dans le temps sans pour autant être dénaturé. C'est important parce que tout changement dans cette image sera littéralement pour vous une défiguration du paysage. C'est pas un compliment, c'est souvent au pire un massacre, au mieux un enlaidissement, disons une dégradation, parce qu'un paysage est toujours défiguré par rapport à l'image que l'on s'en fait, que l'on s'est représenté. Ça veut dire ça, figurer, ça veut dire modeler dans l'argile, et très tôt en français ça veut dire bien dessiner. C'est une intervention humaine, et il faut toujours rappeler que le paysage est indissociable d'une image que l'on se fait et que l'on fige, en oubliant souvent qu'il est une somme d'altération, d'aménagement, de couches successives, de changements, de défiguration, de refiguration. Protéger ce paysage, le vôtre, quel qu'il soit, c'est pas le figer dans le marbre, alors c'est le repenser constamment. C'est réinscrire votre vision dans le temps. Regardez-le, écoutez-le, il est sans cesse en mouvement, il est vivant.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mes invités d'aujourd'hui font parler les paysages. Elles sont romancières et ont en commun leur goût pour l'exploration du réel, des espaces, des lieux et de leur mémoire. Dans Cévose, en librairie après-demain, elles exhument les fantômes d'un village de montagne englouti après la construction d'un barrage dans les années 50. C'est un court récit écrit à quatre mains aux confins du fantastique qui interroge le progrès et la perception. Bonjour Maëlys de Kerangal.
Bonjour.
Et bonjour Joyce Ormond.
Bonjour.
Avant toute chose, que nous raconte un paysage? C'est la question que je me suis posée tout au long de cette lecture et j'ai l'impression qu'elle est centrale dans votre approche pour ce livre.
Je pense qu'un paysage, c'est déjà une forme, je veux dire une géographie, une géomorphologie. Hein. C'est justement, c'est la montagne, c'est le lac. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est l'expérience qu'on en a. C'est-à-dire qu'au départ, il y a justement cet espace, cette géographie. Et par l'expérience qu'on en a, ça devient un paysage qui s'inscrit dans la mémoire et qui fait partie de soi, qui raconte voilà, des fictions, des souvenirs. Et je pense que c'est aussi pour ça que perdre un paysage, c'est une altération très douloureuse. Perdre son paysage, voyez, faire qu'il n'existe plus ou qu'il soit si modifié.
Alors évidemment, c'est passionnant au regard de votre littérature à toutes les deux. Joyce Ormond, je me tourne vers vous. Dans quelle mesure écrire, c'est pour vous toujours partir d'un lieu, justement, d'un espace, peut-être même d'un paysage?
Je pense qu'on a ça en commun avec Maëlys, c'est-à-dire un goût pour les espaces, un goût pour les lieux, et que souvent nos écritures s'ancrent d'abord dans l'arpentage d'un espace. C'est un point de départ, comme disait Maëlys, c'est une forme, c'est un cadre, c'est un espace-temps, et ça permet précisément dans ce livre aussi d'éprouver à deux, parce que c'est un livre écrit à quatre mains, c'est une fiction écrite à quatre mains, donc pour essayer de produire un imaginaire commun, une langue commune, il fallait qu'on ait une expérience commune. Et donc ce livre, il a commencé par cette expérience du paysage. On est parti toutes les deux quelques jours dans la montagne, voir les barrages, voir le lac artificiel, arpenter de manière pas du tout programmée, comme ça, un peu dérivée dans ces espaces, dans ces paysages, dans ces montagnes, pour se forger précisément une expérience commune à partir de laquelle on a pu écrire.
Alors si on parle précisément de ce paysage, de ce barrage hydroélectrique dans une vallée montagneuse, vous peut-être nous le décrire. À quoi ça ressemble?
Quand vous arrivez, d'abord vous suivez une vallée qui commence par être hérissée de poteaux électriques extrêmement impressionnants. Et puis tout d'un coup, il y a ce mur qui surgit, hein, qui s'appuie sur les deux versants de la vallée. C'est un mur absolument colossal. On parle effectivement, nous, le barrage qu'on a été voir, c'est le barrage donc de Tignes. Hein. Et derrière ce mur déraisonnable, il y a ce lac qui est, en tout cas celui-là, une surface absolument mate, très opaque, une surface qu'on a d'emblée trouvée très énigmatique. Et puis tout autour de ce lac, il y a effectivement des échappées, parce que la montagne a continué d'être finalement aménagée pour recevoir cette énorme structure, donc de tunnels, de paravalanches. Il y a eu beaucoup de constructions qui ont été édifiées dans la montagne. Et puis, il y a aussi des accès à certains alpages, des accès à des espèces de poches plus sauvages, des plateaux, voilà, pour toutes ces raisons, cette déambulation, elle nous a permis quand même de nous donner une représentation aussi de cet espace pour pouvoir un peu, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure, à ce que vous écriviez, c'était cette idée des strates, hein, cette idée des couches. En fait, ce paysage, il a une histoire, il a une mémoire, et nous, on était évidemment intéressés par en restituer la présence, exceptionnelle, massive. Bon, il y a quand même une certaine, on était impressionnés. Et puis, tout de même, le lien à ce qui a eu lieu là. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Alors c'est intéressant parce que dans votre réponse, on entend qu'il y a une certaine forme de violence en fait qui a été inscrite sur ce paysage. Dans quelle mesure la violence de la modernité s'exerce-t-elle peut-être d'abord sur le paysage?
Oui, le livre, il raconte aussi l'histoire d'une catastrophe et comme vous le dites, d'une violence infligée au paysage qui correspond à une histoire de la France, à un moment justement de la construction de la modernité du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, on reconstruit le pays dans les années 50 et donc on construit énormément de barrages dans les montagnes françaises pour faire entrer le pays dans l'ère de l'électricité massive et on engloutit des villages, on déplace des populations et on sectionne littéralement le paysage en venant y installer ces infrastructures massives qui ont quelque chose à la fois de sublime et d'hostile et qui sont comme des mains mises sur des lieux où vivent des communautés depuis des siècles. Donc il y a une violence faite aux populations, une violence faite à l'espace au nom d'une modernité qui est décidée, on le raconte dans le livre, depuis un pouvoir central. Donc ça raconte aussi l'histoire des rapports entre les régions, ces paysages locaux et puis la centralité du pouvoir, Paris, enfin une histoire politique française.
J'ajouterais que ce qu'on a découvert aussi, enfin ce qui nous est apparu quand même très fort quand on était sur place, c'est immédiatement l'aspect irréversible de ces structures,
oui, hein,
l'irréversibilité. Oui. Ça c'était quand même assez fort. Et l'idée aussi que quand on regarde ces structures, ces ouvrages, on se sent un peu dans un âge paléo-écologique, enfin la pensée écologique est pas vraiment à l'œuvre dans les années 50. Les sociétés humaines ne se sentent pas comme étant intégrées au vivant. D'ailleurs, on ne dit pas le vivant, on continue à dire la nature, c'est-à-dire une entité à laquelle on se confronte, dont on essaie d'exploiter la richesse, de capter les forces, de maîtriser la puissance. On ne se sent pas participer oui. d'un même espace. On n'est pas dans cette idée qu'on habite en interaction un espace. Il y a plutôt l'idée que justement on fait face à une altérité, dont on pourrait tirer une richesse qui est la nature. On pense, c'est cette idée de l'exploitation. Et aujourd'hui, par exemple, on dit plus la nature, on dit le vivant. Aujourd'hui, les choses ont assez changé. Ce type de structure, ce type de barrage. On aurait du mal en même temps à les penser, à les édifier, à faire qu'il y ait un accord pour les bâtir.
Tout à l'heure, Joyce Ormond a employé une expression, un mot qui me paraît intéressant, le mot de catastrophe. C'est une réflexion passionnante. De quelle catastrophe sommes-nous les héritiers ?
En l'occurrence, sur cette histoire de village englouti, on est les héritiers d'une catastrophe humaine. C'est-à-dire que, comme disait Maëlys, on est dans un autre temps de la nature et de notre rapport à la nature. Et aujourd'hui, on se vit vraiment comme extrêmement vulnérable face à la nature, face aux catastrophes naturelles, ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, les tsunamis, les vagues de chaleur, etc. Alors que ce qui est intéressant dans cette catastrophe-là, c'est que c'est une catastrophe qui vient de la main de l'homme.
Alors peut-on faire barrage à cette catastrophe ?
Peut-on faire barrage à cette catastrophe ? À l'époque, vous voulez dire ?
Non, aujourd'hui.
On fait barrage aujourd'hui à cette catastrophe, enfin à ces catastrophes de la défiguration de la nature, justement en remettant en cause ce que disait Maëlys, c'est-à-dire notre façon d'habiter l'espace, notre rapport utilitariste à l'espace. Et dans cette catastrophe de Cévose, on est dans ce rapport utilitariste à l'espace qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, qu'on critique aujourd'hui.
Et se peut-il que la littérature, justement, soit capable de faire barrage en proposant un autre langage, une défiance, une réflexion, comme le disait Joyce Ormond?
Oui, la littérature, en tout cas, elle peut mettre cette histoire-là en récit. C'est son pouvoir. Elle peut donner un récit, elle peut donner une fiction, hein, de cette catastrophe. Nous, ce qui nous a intéressé, c'était précisément de faire se confronter dans le livre deux temps, en fait, un temps qu'on va dire un peu horizontal, un homme au présent, Tommy Mott, cet ingénieur qui va justement contrôler ses installations parce que c'est la fin de la concession d'un barrage. Et on va le suivre pendant 4 jours, donc dans une présence et dans une expérience qu'il a des lieux. Et cette expérience va être sans arrêt percutée, modifiée par une espèce de voix hein, qui revient à 4 reprises et qui est cette voix qui va charrier l'histoire, la mémoire. Oui. Et ça, pour moi, c'est une façon d'agencer quand même un récit. Oui. Hein, aujourd'hui, et ce qui a eu lieu, et ça peut en donner une forme aussi.
Vous savez, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont la modernité, en fait, produit de l'oubli, en faisant table rase, en fait, du passé, en effaçant des lieux littéralement, en effaçant
du
des
recouvrement.
Vies. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je me suis demandé en quoi écrire, c'est peut-être aussi tout simplement ressusciter ce qui a disparu, ce qui a été englouti. Tout simplement.
Oui, alors il y a une espèce de coïncidence là entre le travail de l'écriture, c'est-à-dire le travail de mise à nu d'un passé, d'un drame, d'une histoire, et précisément ce qui se passe dans le paysage, parce que ce qui est intéressant dans ce village de Tignes dont on s'est inspiré, c'est que pendant des dizaines d'années, tous les 10 ans précisément, on vidait le barrage, on vidait le lac pour entretenir l'installation, et donc les ruines du village réapparaissait. Et les anciens habitants venaient pour des processions, se souvenir, se recueillir, organiser des baptêmes au milieu des ruines. Donc, sans cesse, il y avait cette espèce d'exhumation. Et à un moment, on a décidé qu'on ne viderait plus précisément le lac artificiel, le barrage, parce que ça donnait lieu à de la révolte, à de la colère, et que ça ravivait cette mémoire douloureuse et qu'il fallait totalement l'oublier, cette mémoire. Donc là, où les techniciens vraiment d'EDF, hein, précisément, ont décidé qu'on ne l'exhumerait plus, eh bien, le récit vient
prendre
prendre le relais. Ouais.
Celle qui n'a aucune mémoire dans cette émission, vous la connaissez évidemment toutes les deux, c'est la culture qui déshérite ses descendants. À qui mieux. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 21 février? Chaud devant, les médias spécialisés Rap Yard et Bouscapé ainsi que l'agence Smile ont annoncé qu'ils allaient créer la première cérémonie française entièrement consacrée aux cultures populaires et notamment au hip-hop. Né du constat que les artistes rap restent sous-représentés dans les cérémonies telles que les Victoires de la Musique ou les Energy Music Awards, le projet s'appelle Les Flammes et se prépare à voir le jour dès 2023, le feu.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sous la coupole.
Au fond, on a tout appris dans les livres. C'est dans les livres que nous avons découvert notre identité.
Compagnon immortel, l'homme de lettres et universitaire Antoine Compagnon vient d'être élu à l'Académie française, ancien professeur au Collège de France et auteur d'une 30aine d'ouvrages consacrés notamment à l'œuvre de Marcel Proust. Compagnon à qui l'on doit nos séries à succès Un été avec Montaigne et Un été avec Baudelaire s'assiera dans le fauteuil 35, vacant depuis la disparition il y a 2 ans du médecin et essayiste Yves Pouliquen.
Et toujours en été.
On dirait le Sud. Jusqu'en janvier prochain, l'atelier des Lumières à Paris propose Lumières de Provence, une grande expo immersive consacrée au tableau baigné de soleil du maître impressionniste Paul Cézanne. Plongée sensorielle et numérique au cœur d'étoiles du peintre Aixcois, rendu possible grâce à 140 projecteurs et 60 enceintes, l'événement nous fait redécouvrir près de 500 de ses œuvres, dont Les Joueurs de cartes ou La Montagne Sainte-Victoire, c'est du grand art.
Amoureux des livres, devenez juré du Livre Inter, écrivez-nous vite.
Et enfin, dernière ligne droite, ça se précise, pour la formation du prix du jury, pardon, du prix du Livre Inter 2022, présidé, comme vous le savez, par l'inspirante Delphine de Vigan. À partir d'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une semaine pour candidater et espérer faire partie de l'aventure. Pour se faire rien de plus simple, il suffit d'envoyer sa plus belle déclaration d'amour à la littérature par courriel sur le site franceinter.fr ou par courrier à l'adresse Livre Inter France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. Eva Béton vous attend. Maëlys de Carangal et Joyce Ormond, invitées de Boomerang ce matin pour parler d'écriture, de mots, de noms, à commencer par celui de votre nouveau livre. C'est Vosges qui désigne, je le disais, ce village englouti dont vous racontez l'histoire et qui est, on l'a compris, un nom de fiction. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans le choix d'un nom, justement ?
Alors ça, c'est quelque chose dans lequel on est très engagés l'une et l'autre. Hein. C'est l'importance des toponymes et des anthroponymes dans la fiction. C'est-à-dire, c'est... Bon, ce qui se joue, je pense, c'est vraiment un imaginaire, c'est d'instaurer, de trouver comme ça des capsules phoniques hein, qui contiennent une image, un imaginaire. Donc Cévoz, c'est vrai qu'on s'est quand même pas mal inspiré à partir d'atlas et de cartes qu'on a déployées, de noms qui pouvaient sembler proches des noms de Savoie, des noms de montagne, et c'est tous ces noms qui se terminent par OZ, par exemple, ou alors il y en a d'autres dans le livre qui se terminent par X ou EIX. On a cherché un peu dans ce sens-là. Et pour nous, c'est aussi un espèce de mot qui va s'inscrire d'abord sur la couverture, puis dans la page. Donc, il faut qu'on le repère. Ce qui est beau dans un nom propre, c'est que précisément, il monte sur la page. Hein. Ça c'est assez fort.
Mais
voyez
ça me permet de vous interroger quand même sur le réel. Quelle matière est-ce que c'est pour chacune d'entre vous? Un point de départ, un catalyseur, vous le disiez? Quelque chose de malléable ou d'un peu plus rigide? Est-ce que c'est seulement la même matière pour vous deux, Joyce Ormond?
Alors, c'est vrai que on a beaucoup de terrains communs avec Maëlys dans l'écriture, et en premier lieu cette question des espaces dont on parlait au début de l'émission, cette question de ce cadre de l'espace-temps. Après, on a aussi des terrains plus propres. C'est vrai que Maëlys se tourne davantage vers la fiction et le roman, a une confiance plus forte dans le roman, tandis que moi, j'ai tendance à me tourner surtout ces derniers temps davantage vers le documentaire, le récit de terrain. Il se trouve que dans Cévoz, il y a vraiment ces deux axes. Je le disais tout à l'heure, il y a cette expérience de ce petit voyage qu'on a fait en montagne, où on s'est aussi documenté sur l'histoire de Tignes. Quand on était là-bas, on s'est aussi documenté sur le fonctionnement du barrage, par exemple. Donc, on a ce goût commun aussi pour la technique, pour les grands ouvrages, le bâtiment. Donc, on s'est retrouvé là-dessus, mais on voulait justement s'arracher au documentaire, s'arracher à l'histoire, parce que le défi de l'écriture, c'était le défi de la fiction.
Dans tous les cas, le réel semble résister quand même, Maëlys de Carangal.
Le réel y résiste dans la mesure où notre projet, c'était aussi de rendre compte de ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire de cette catastrophe, et aussi de l'aspect des différentes histoires qui habitent un paysage, et de l'aspect spectral aussi qui subsiste dans un paysage et qui peut dérégler notre expérience et nos sens.
Parce que ce qu'il faut dire tout de suite, c'est l'irruption de cette inquiétante étrangeté de voix, de présence, de revenants, et ce pari en fait du fantastique. Comment ça s'est imposé? Parce que c'est pas forcément un genre auquel on vous associe l'une et l'autre.
Comment ça s'est imposé, justement, je pense, à partir de ce séjour qu'on a fait là-bas, où justement on était d'ailleurs en plein confinement, ne serait-ce que d'aller rencontrer des vendeurs de saucissons dans des villages, et puis d'aller dans cet hôtel incroyable où on était, qui était un hôtel effectivement désert, mais qu'on nous a prétendu un peu, justement, un peu plein. Et je pense que, de toute façon, rien qu'en regardant la surface du lac quand on est arrivé, en l'apercevant dans cette espèce de couleur, de son opacité, on repérait aussi le fait que les ombres coïncidaient pas, elles semblaient projetées du sol, projetées du fond, pardon, et ne correspondaient pas forcément au cirque montagneux qui entourait le lac. Voilà, on a trouvé que le paysage était trouble, il était troublé. Ce mur suffisait aussi à dérégler totalement notre présentation de la montagne et à la perturber totalement. Et je pense qu'on a fait confiance aussi à notre propre déstabilisation. C'est aussi l'idée d'aller quelque part sans en savoir grand-chose à l'avance.
La déstabilisation, c'est quand même l'irruption de ces figures du passé dans le présent. Et ça pose la question quand même du temps. De quoi est composé notre présent? De quoi est-ce qu'il est fait? Ça, c'est une question que vous semblez poser.
Oui, c'est vrai que il y a cette étrangeté du paysage dont parlait Maëlys, et puis il y a quand même cette idée qu'on s'est présenté devant ce lac, qu'on a regardé cette surface opaque qui ressemblait à une espèce de mélasse turquoise, et on s'est dit en dessous il y a un village englouti, de savoir que sous cette apparence étrange se tenaient les ruines d'un village, nous a fait basculer immédiatement dans ce double rapport temporel, c'est-à-dire que le passé était là devant nous, et on avait presque juste à plonger dans le lac pour avoir accès à ce passé, il était là à portée de main, et tout ça dans un environnement dangereux, sulfureux, où l'électricité est partout, où il y a des panneaux attention danger, où il y a justement ce mur immense qu'on compare dans le livre au mur de Game of Thrones, cette espèce de barrière infranchissable. Et donc le passé était à la fois soustrait au regard et en même temps il était là, comme disait Maëlys, spectral, c'est-à-dire que l'écriture, à ce moment-là, elle revenait presque à un de ses gestes primaires, c'est-à-dire ressusciter les fantômes.
Alors comment on fait concrètement, vous qui êtes écrivain, écrivaine, romancière, quel temps grammatical est-ce qu'on utilise? Parce que c'est ça la question que ça pose.
Alors là, pour le coup, je pense qu'on a essayé d'articuler dans cette espèce de trame horizontale, verticale, vous voyez, le sens du temps et le sens du séjour de Tommy et le sens de l'histoire. On a essayé d'articuler deux temporalités et de fait, dans ces voies donc qui finalement racontent la déposition des cloches, la construction du barrage, puis l'évacuation du cimetière, puis enfin l'évacuation du village, on a essayé de retrouver un temps qui est peut-être plus épique, qui est celui du récit.
Oui.
Qui est vraiment celui du récit qui plonge aussi, qui plonge dans les racines de l'histoire, de la documentation, etc. Mais pour Tommy, on est beaucoup plus au présent, en fait. On est dans un présent de la sensation, on est dans un présent aussi de l'hallucination et le moment où lui aussi délire un peu ce mur. Comme nous, Tommy, ce héros, Tommy Mott, donc il délire quand même ce barrage et ce mur. Il le trouve, il le voit revenir la nuit, le monde aussi, sa propre réalité devient conforme un peu à ce barrage.
Mais j'ai l'impression que vous interrogez aussi toutes les deux dans ce livre le temps d'aujourd'hui, ce que devient le temps dans une société où tout va de plus en plus vite, où on s'habitue à ce que tout soit de plus en plus immédiat. Que devient le temps, au fond, Joyce Ormond, et comment on y répond?
En tout cas, dans ce livre, ce qui est intéressant du point de vue justement de cette question de la durée, c'est que Tommy Mott, ce héros justement plongé dans cette espèce de paysage déréglé, il interrompt le temps. Alors pas seulement parce que le passé vient percuter le présent, mais aussi parce que il va passer 3 jours hors du temps, hors, comme vous le dites, de la durée habituelle qui est une durée de l'accélération, de l'action, où il faut remplir des missions, où il faut justement utiliser ce temps, le rapport utilitariste qu'on a au temps. Tommy va venir dérégler ce temps, il va passer 3 jours dans cet hôtel, il va passer 3 jours à errer dans les montagnes, à sentir son corps se dérégler, à sentir ses sens se dérégler, le paysage se dérégler, et à être juste, à éprouver, en fait, précisément un espace passe-temps, en oubliant sa mission, en oubliant qu'il y a un monde extérieur qui se passe autre chose que cette virée dans la montagne. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de salutaire dans ce refus, justement, de la chronologie habituelle et de ce temps moderne hyper accéléré.
Maïs ?
Oui, en fait, dès qu'il arrive sur place, il n'a plus aucune connexion, en fait. Dans ce pays de l'électricité, dans cette vallée de l'électricité, il perd ses connexions. Dans cet hôtel, il n'a pas non plus de connexion. Il est toujours avec ses problèmes de Wi-Fi, etc. C'est-à-dire que il est tout le temps mis en échec dans cette idée de se reconnecter au temps extérieur. Ces Vosges, c'est comme une alvéole temporelle, en fait. Ça creuse une temporalité particulière qui est celle vraiment de l'expérience de Tommy et de son expérience du paysage.
C'est passionnant. On va reparler ensemble de temps, de demain, d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, juste après un titre que vous avez eu envie d'écouter. Les filles d'aujourd'hui, France Inter, Maëlys de Kergal, Joyce Ormond, Boomerang, évidemment.
La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est comme un mal de cœur dans un avion taxi. C'est comme un poudrier avec une mitrailleuse jeté sur canapé ou zone dangereuse. C'est le fourrouble noir d'un appareil photo au fond d'un urinoir. Dans les quartiers prolos, un bouillon de 11 heures et des ongles vernis, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est l'oiseau de malheur des élus de Paris. C'est comme une moto chargeant un bal masqué, ou comme un torero déguisé en marié. Et son voile géant traînant dans l'eau glacée, c'est un prince charmant, tout arrêt ou pygmé, un orage de fleurs dans un bain de minuit, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. océan, un pot-au-feu grand-mère, piscine en gant blanc. C'est comme un peu de poudre dans une veine bleue, ou comme un coup de foudre prêt à vider les lieux. C'est la nuit des chasseurs, les démons de midi, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est un oiseau chanteur gardé par des spahis. C'est un tapis de fleurs dans le moine de Marie. C'est une affaire d'honneur sur un dessus de lit. C'est un vieux dictateur incendié par la foule. C'est une histoire de cœur dans une bouteille saoule. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est une étoile en pleurs filante en plein midi.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bah, elles sont d'aujourd'hui, hein, c'est une évidence. À la page complémentaire, l'une a le cheveu long et flou, l'autre le cheveu taillé à la serpe. Ma seconde dépasse ma première d'une tête. Elles ont tous du binôme de paillasse, en fait. Hein. On les imagine, c'est les studieuses en cours de SVT, au troisième rang de la salle B304, en train de faire chauffer des tubes à essai au-dessus d'un bec benzène et de surveiller la couleur du précipité avec appréhension, avec leur pull de montagne. L'une plus sobre que l'autre, pas se mentir, Maëlys de Kerangal et Joyce Ormond, invitée de Boomerang pour Cévoz, ce livre, je le disais, qui raconte l'histoire d'un village englouti après la construction d'un barrage. Et je pense à une scène assez incroyable où votre personnage plonge dans les eaux du barrage et découvre sous la surface les vestiges de cet endroit. Écrire, c'est plonger.
Oui, c'est une immersion. En tout cas, il y a un moment dans l'écriture où on est totalement engagé engagé dans la langue, engagé dans la formation en tout cas d'une langue. Et c'est vrai que je trouve que ça fait signe à des formes d'immersion. Et en tout cas, on souhaitait que ce livre finalement s'achève par cette immersion dans le lac, hein, par cette plongée dans le lac.
Comment on plonge à quatre mains, Joyce Ormond?
Oh. Alors ça, c'est un peu la grande aventure de ce livre, pour nous en tout cas, de l'écriture, parce que c'est ce qui nous a passionnés, c'est d'écrire une fiction à quatre mains.
Et même d'écrire une phrase à deux, en fait.
D'écrire une phrase, pour être très concrète, pour raconter un peu la fabrication du livre. Alors, il y a déjà ce voyage en commun, comme on disait, pour se fabriquer un imaginaire commun, et puis délirer ensemble sur place, délirer un personnage. On a commencé à délirer notre personnage là-bas, en regardant le lac. Et puis après, il a fallu, en effet, se demander comment on allait créer un troisième imaginaire, une troisième langue, un troisième style qui soit la rencontre de nos mondes communs. Et ça s'est fait en effet sur le début et le livre vraiment à quatre mains, toutes les deux devant l'ordinateur, à fabriquer les phrases ensemble, à régler la ponctuation ensemble.
Et c'est-à-dire qu'il y en a une qui commence une phrase, oui, qui la termine. Voilà,
ça commence un peu à l'oral. Il y en a une qui dit bon alors écoute, on pourrait peut-être commencer comme ça, et puis l'autre prend le relais, et puis en fait on finit par stabiliser quelque chose, et puis on rentre dans la phrase, on l'écarte, on la creuse, on y remet quelque chose de nous deux, l'une prend encore la suite après. Bon, on a pu faire ça au début et à la fin du texte. Sinon, voyez, le reste du temps, l'idée surtout pour nous, c'était d'écrire vraiment ensemble et séparément, c'est-à-dire ensemble dans la mesure où, en dehors de ces deux moments, qui ont vraiment été écrits les deux devant l'écran, on s'est quand même fait lire et l'autre... chacune a refiltré et relu tous les textes de l'autre. Et puis, on a aussi eu des moments plus solo, notamment dans ce qu'on a appelé, nous, les coulées. Et ça, c'était quand même intéressant de produire un texte. Parce que ce qui était vraiment intéressant, j'insiste vraiment là-dessus, c'est que c'est de la fiction. Donc, il y a la question de la question de la langue, elle est vraiment toujours devant, d'une certaine manière. C'est pas comme écrire, vous voyez, une enquête ensemble, etc. Là, il y a justement de la poésie, il y a du rythme, il y a du vocabulaire, il y a une syntaxe particulière pour l'une et pour l'autre. Donc, en fait, l'idée, c'était à la fois d'écrire ensemble et séparément un texte qui ne relève ni de l'une ni de l'autre, mais des deux, et que l'on n'aurait jamais pu écrire l'une sans l'autre. Vous voyez, moi, j'aurais jamais écrit ce texte sans Joy, elle l'aurait jamais écrit.
Oui.
Tout ça, c'est quand même une expérience littéraire, je trouve, assez excitante et puis rare.
Ce qui m'intéresse, c'est le mot expérience, justement. Dans quelle mesure c'est toujours ça? C'est toujours une expérience, l'écriture, du tâtonnement, de l'expérimentation, c'est toujours une expérience.
Oui, c'est toujours une tentative, une expérience et une tentative. La tentative d'atteindre un point, de suivre une ligne, d'arriver au bout d'un processus, c'est toujours essayer. C'est une expérience qui qui est voué à la fois à la réussite et à l'échec, parce que on finit toujours un livre et en même temps on le finit jamais exactement comme on l'avait imaginé. Donc là, c'était une expérience encore plus radicale, parce que à la fois on se soutenait dans cette expérience, chacune écrivait avec l'autre, sous le regard de l'autre, encouragée par l'autre, parfois critiquée par l'autre, et en même temps il fallait aussi faire des sortes de compromis d'une certaine manière, c'est-à-dire lâcher sa propre langue, sa propre solitude de l'écriture, parce qu'écrire c'est normalement être seul au monde, être tout puissant face à sa, avec sa propre langue, avec son propre imaginaire, avec ses propres choix. Et là, il y avait quelque chose qu'on mettait en commun. On mettait ces deux moments de solitude, on les mettait en commun pour écrire à deux. Et ça, c'est une expérience qui est très rare, en fait.
Oui, alors, il y a cette version-là, la version de la puissance et de la solitude à deux. Mais moi, je me demande aussi si cette expérience-là, elle manifeste pas, au contraire, le fait qu'un auteur est jamais seul, mais c'est en lui loge une multiplicité de voix, d'écriture, de lecture, que l'auteur, il est toujours sous influence et qu'on n'écrit jamais complètement seul, mais depuis la littérature. Et donc, nous, on manifeste ça, on manifeste déjà que dans notre duo, c'est aussi ça qu'on rend visible.
Et
que l'auteur est jamais unique.
Pour terminer cette émission, vous nous avez écrit un texte et j'aimerais que vous nous le disiez à deux voix, Maëlys de Carangal et Joyce Ormond. C'est à vous.
Sur la page du livre ouvert, l'œil fait le point sur les caractères d'imprimerie. Des lettres forment des mots, des phrases, des paragraphes. Des figures typographiques finissent par raconter une histoire. Mais l'œil voit immédiatement autre chose, sans toujours s'en rendre compte d'ailleurs. Des signes graphiques qui actionnent la phrase, la propulsent, organisent le texte, le soulèvent, l'accélèrent et le ralentissent. L'œil voit la ponctuation. Plus ou moins dense, présente, plus ou moins lâche ou malmenée, c'est une question de style. Il voit des points-virgules, des tirets, des parenthèses, des points d'exclamation, de suspension, et les absorbe aussitôt, les dissout dans la lecture, le sens de la lecture. L'œil entend la musique de la ponctuation. L'œil écoute les intonations, il reprend sa respiration, ajuste sa cadence au rythme du virgulage de la phrase. Sans ponctuation, l'œil n'entendrait rien. Sans ponctuation, les phrases ne seraient plus lisibles, se réduiraient à des ribambelles graphiques et sonores, le lecteur perdu, essoufflé. Par la grâce de la ponctuation, écrire se fait à voix haute. Écrire devient parler, et le lecteur entend.
Et il entend parler quelqu'un, puisque la ponctuation est la réplique anatomique de l'auteur dans son texte, l'empreinte de son corps dans son livre. Puisque la ponctuation le projette dans sa phrase, décalque sa vitesse, situe son souffle, ses oscillations, ses ruptures de rythme, ses silences. Puisqu'elle fait entendre l'énergie intérieure de l'auteur au présent de l'écriture, elle rend tangible son tempo organique à l'instant même où se forme la phrase. Si charnelle donc, qu'elle joue comme une signature. Sans doute est-ce d'ailleurs parce qu'elle touche à cette part intime que la ponctuation relève, lors de la phase de correction d'un livre, d'un régime d'exception. S'il consent aux règles de la syntaxe, de l'orthographe et du code typographique, l'auteur demeure le ponctueur obsessionnel de son travail. Il garde la main sur ses virgules. De sorte qu'écrire à deux, ponctuer un même texte à deux, relève d'un défi et d'une création. Comment faire cohabiter dans un même livre deux tempéraments d'écriture, de flow, sans qu'ils luttent ou s'amoindrissent? Il aura fallu inventer, à l'échelle d'un roman, une ponctuation commune, comme une respiration commune, faite d'alternance, de contraste et de synchronie, une danse, un duo.
Merci infiniment, toutes les deux, Maëlys de Carangal et Joyce Ormond, d'être venues faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Cévose, votre nouveau livre, sera près demain, qu'il est publié aux éditions Inculte, et que c'est intense, fantomatique, très réussi. C'est un livre qui m'a passionné. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instagram. Ça va, Sonia?
Bah oui, ça va, Augustin. La prochaine fois, vous nous chanterez une petite chanson.
Comment ça?
Bah vous-même. Quand vous faites sauter le disque.
Ah, je sais, ouais, je sais, je suis à la bourre.
Mais
je suis désolée.
Mais c'est pas grave. C'était formidable.
Bon, tant mieux. À demain.
Allez,
salut.
Salut.